trois qui sont invisibles, ils sont la salle des appels. Oui. Ils sont bien payés, par contre, il n'y a pas de souci. C'est le travail qui est un peu moins visible. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, Laura, on cherche désespérément. Ah oui, c'est une arnaque. Oui. Laura, vous nous avez dit que votre livre que vous avez écrit sur votre grand-père, écoutez, s'appelait comme ça. Comment il s'appelle, le livre ?
C'est Giannino, c'est son prénom.
Giannino. Et quelques temps plus tard, vous nous avez dit ceci.
Giovanni.
Voilà. Alors, écrire en ligne sur son grand-père et ne même pas connaître son prénom, là, on n'est pas loin de l'escroquerie. Vous écoutez RTL, il est midi.
RTL midi. Le 12h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL midi. 2h30 d'information, 2h30 d'opinion, ça va durer jusqu'à 14h30. Joyeux Vénard et la formation, c'est tout de suite jusqu'à 13h, hein, de midi à 13h. Et c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour Céline.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et à la une, Gérard Depardieu en garde à vue. L'acteur sommé de s'expliquer devant les enquêteurs après deux plaintes récentes de femmes qu'il accuse d'agression sexuelle sur des tournages. Le dernier a eu lieu en 2021. Gérard Depardieu, déjà mis en examen pour viol, a jusque-là toujours réfuté les accusations qu'il vise. Mais cette saga judiciaire semble avoir déjà sonné le glas de la carrière de l'acteur. On y reviendra longuement dans cette édition. À suivre aussi, un train qui déraille à cause de la pluie. Les fortes précipitations ont provoqué des coulées de boue hier dans le Rhône. La ligne Givors-Lyon reste fermée pour l'instant. La réforme de l'assurance chômage et le gouvernement qui envisage d'allonger le délai de carence pour les demandeurs d'emploi. À l'étranger, l'espoir d'une trêve enfin à Gaza. Le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages. Et puis plus léger, le rêve éveillé des supporters brestois après la victoire 5-4 hier soir. C'est désormais certain, l'avenir sera européen. À partir de 13h, vous le savez, c'est vous qui prenez la parole au 3210. Éric, vous leur parlerez aujourd'hui de quoi, nous?
Des invisibles, c'est 11 millions de travailleurs qu'on ne voit pas. Ils sont manutentionnaires, caristes, chauffeurs-livreurs, aides à domicile, aides-soignantes, éboueurs, que sais-je, aides ménagères, techniciens de surface. On leur avait promis beaucoup de choses au moment du Covid. Et ben, les horaires, les salaires, c'est toujours la même galère. Vous avez envie de témoigner de cela? 3210, le standard est ouvert. Victor vous attend.
Avant ça, la météo avec vous aujourd'hui, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Éric.
Côte au ciel, c'est peu aussi la galère. Hein.
C'est un peu aussi la galère, alors surtout encore aujourd'hui, quasiment des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne, où il va pleuvoir toute la journée, alors ça va faire du bien aux Pyrénées orientales, mais dans les autres régions, ce serait bien que ça cesse un petit peu.
Et les détails à la fin du journal, merci Louis.
RTL midi.
Gérard Depardieu, à nouveau face aux policiers ce matin. Déjà mis en examen pour viol, l'acteur est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne pour s'expliquer après deux plaintes pour agression sexuelle. Bonjour Thomas Proto.
Bonjour.
D'après ces femmes, les faits se sont déroulés lors de tournages, le plus récent en 2021.
Oui, sur le tournage du film Les Volets Verts du cinéaste Jacques Becker. Une décoratrice âgée de 53 ans a déposé plainte en février dernier. Elle dénonce des propos graveleux récurrents, mais également des gestes physiques de la part de l'acteur constitutifs d'une agression sexuelle. Il m'a pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à mes seins. C'est ce que la décoratrice avait déclaré à Mediapart cet hiver. L'autre plainte concerne des faits de 2014 sur le tournage du Magicien et des Siamois de Jean-Pierre Mocky. La plaignante, âgée de 24 ans à l'époque, avait évoqué des paluches sur tout mon corps. L'avocat Gérard Depardieu le redit régulièrement. La star mondiale conteste l'ensemble des faits dont il est accusé. Sa garde à vue dans les locaux du 3e district de la police judiciaire parisienne peut durer jusqu'à 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à mercredi matin. Les enquêteurs peuvent notamment organiser des confrontations avec les deux plaignantes. On ne sait pas à l'heure qu'il est si cela a été requis par le parquet de Paris.
Thomas Proto, et on revient sur cette garde à vue de Gérard Depardieu après le journal. L'acteur déjà mis en examen pour viol, on le disait. Où en sont les enquêtes? Sa carrière cinématographique est-elle terminée? Rendez-vous dans moins de 10 minutes maintenant. Deux jours après la mort du jeune Matisse, le mineur de 15 ans accusé d'avoir poignardé l'apprenti cuisinier devrait être déféré cet après-midi, tout comme sa mère, soupçonnée d'être impliquée. Le suspect est un Afghan résident en France. Il avait déjà été placé sous contrôle judiciaire le 22 avril. Et selon les premiers éléments de l'enquête, des insultes et des moqueries seraient à l'origine du drame. On y reviendra dans le journal de 12h30.
Et puis à quoi ressemblera le tour de vis sur l'assurance chômage promis par le gouvernement dès le 1er juillet? Il pourrait en tout cas passer par l'allongement du fameux délai de carence.
Oui, alors que l'exécutif assure vouloir inciter les demandeurs d'emploi à retrouver plus vite un travail. Voilà pour l'objectif affiché, qui permettra aussi quand même au passage de faire des économies. Mathilde Piquet, cela pourrait passer par un allongement du délai entre la fin du contrat du salarié et le début de son indemnisation.
Exactement, voilà de quoi donner de nouvelles sueurs froides aux salariés et aux syndicats. En fait, très concrètement, aujourd'hui, si vous êtes licencié avec une indemnité supérieure au minimum légal, alors vous devez attendre jusqu'à 5 mois pour commencer à toucher votre allocation chômage. Pour faire des économies, le gouvernement veut durcir le dispositif. Deux pistes sont sur la table, soit relever le plafond de 5 à 8 mois, soit allonger la durée globale de carence pour tout le monde. Et pour Denis Gravouille de la CGT, c'est une mesure inacceptable.
L'égalité, c'est certainement pas de prendre à ceux qui viennent de perdre un emploi. Il est possible que les cadres soient plus concernés. Quand on se retrouve cadre à être licencié après 50 ans, on a beaucoup de mal à retrouver du boulot. Donc cette indemnité, c'est pas un cadeau. Ça peut viser aussi des ouvriers et des employés, y compris des gens au SMIC. On va faire des économies sur leur dos.
Et dans l'entourage de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, on le martèle, hein, le délai de carence n'est qu'une piste parmi d'autres. Parmi effectivement les autres possibilités, la réduction de la durée d'indemnisation notamment. Les nouvelles règles de l'assurance chômage doivent entrer en vigueur au 1er juillet.
Mathilde Piquet du service économie et sociale d'RTL.
Et puis à l'étranger, l'espoir d'une trêve dans la bande de Gaza.
Oui, le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages. Et cela lors d'une réunion tripartite avec le Qatar et l'Égypte au Caire. Après 7 mois presque désormais depuis les attaques du 7 octobre et le début du conflit. On y reviendra en détail à 12h40. En Espagne, c'est Queda. Pedro Sanchez reste à la tête du gouvernement. Le Premier ministre dans une situation très délicate depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire visant son épouse. Enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption. Le résultat, selon Pedro Sanchez, d'une campagne de déstabilisation orchestrée par l'opposition de droite. Il avait donc mis la démission, sa démission dans la balance et a annoncé il y a un peu plus d'une heure maintenant qu'il restait à la tête du gouvernement.
RTL Midi.
Football, une avalanche de buts hier en Ligue 1 et au terme de cette 31e journée du championnat de France, le PSG est sacré champion.
Pour la 12e fois de son histoire, oui, grâce à la défaite du Dauphin monégasque battu par Lyon, 3-2. Et sur le podium, toujours Brest. Brest qui a conservé sa 3e place au terme d'un match de folie, une victoire 5-4 contre Rennes. Brest désormais assuré de disputer une compétition européenne l'an prochain, Philippe Audouin.
Oui, et la performance est d'autant plus épatante, Céline, que Brest, il y a tout juste un an, luttait pour ne pas descendre en Ligue 2. Le destin du stade brestois jusque-là, c'était d'ailleurs de faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. Alors, pensez donc, disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, c'était totalement inespéré. Et parmi les supporters finistériens, il y a à la fois beaucoup de plaisir et de fierté.
On est comme dans un rêve, là. On a du mal à y croire.
Extraordinaire. On s'attendait pas en fin de saison, l'année dernière, déjà arriver là.
C'est une saison magnifique. Moi, je suis abonné depuis 2008. C'est incroyable.
Il y a l'écharpe rouge, là, on la voit un petit peu partout maintenant, mais voilà, on fait même les déplacements alors qu'on ne les faisait pas avant.
Pour moi, c'est l'image du vrai football, le football où il n'y a pas un budget à 150 millions d'euros.
C'est une belle histoire, c'est le petit pousset. Si par exemple ils finissent deuxième, ce sera peut-être le plus grand exploit qu'il y ait jamais eu dans le championnat de France, quoi.
Mais dans cette belle histoire, il y a aussi de la frustration. La première participation du club à une Coupe d'Europe la saison prochaine ne pourra pas se faire au stade Francis Leblé à Brest, jugé trop vétuste par l'UEFA, même si les dirigeants bretons espèrent encore obtenir une dérogation.
Philippe Audouin. Et puis à une quinzaine de jours maintenant du Festival de Cannes, on l'a appris ce matin, Omar Sy fera partie du jury de cette 77e édition, tout comme l'actrice française Eva Green, connue notamment pour son rôle de Milady récemment dans Les Trois Mousquetaires. La météo, Louis Baudin, on vous retrouve pour cet après-midi encore bien instable. Hein.
notamment dans le sud. Hein, là, je regarde les images satellites. On a beaucoup de nuages qui remontent encore une fois du sud vers le nord, traversant les Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne. Ça va même jusqu'en Lorraine. Des nuages très denses également sur le Languedoc-Roussillon. Et tout ça s'accompagne de pluies que nous allons retrouver tout au long de l'après-midi. Alors toujours le même axe, hein, Occitanie, Massif central, Bourgogne. Ça va rester nuageux et pluvieux. Même chose dans la vallée du Rhône, sur le Languedoc. Donc ça va s'accumuler, hein, par rapport aux précipitations d'hier. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va pleuvoir énormément également sur les Pyrénées orientales qui en ont cruellement besoin. Dans les autres régions, quasiment le nord de l'Aquitaine jusqu'à l'Île-de-France, dans les régions du nord-ouest, là ça restera plus sec et plus ensoleillé. Et puis de l'autre côté, si je puis dire, entre les Alpes et la Corse, là aussi on commence à avoir une belle luminosité, notamment sur la Corse, hein, où les températures dépasseront les 25 degrés. Ailleurs, ça restera plus raisonnable, entre 13 et 17 degrés sous les nuages, donc des Pyrénées à la Bourgogne, mais 17 à 22 degrés quand même dans les autres régions. Allez, sera un petit air de printemps dans les régions du nord et du nord-ouest.
Merci beaucoup, Louis.
Dans un instant, Gérard Depardieu en garde à vue.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL Midi jusqu'à 13h.
Pour tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère, restez à l'écoute d'RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises ondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué. Hein.
En barquette patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Karine, c'est qui ton mec en ce moment ?
J'en ai pas.
Comment ça ?
Bah,
tu
oui.
fais une émission sur ça et t'es célibataire.
Bah, les cordonniers sont les plus mal
crédible
côté.
Ton truc.
Et t'as raison, Stomy. Franchement, c'est pas normal que vous trouviez des nanas aux mecs ou des mecs aux nanas et que vous, vous en trouviez pas.
Bah, je pourrais, en fait.
Oh, je suis pas sûre.
Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et retrouvez tout à l'heure l'émission spéciale des grosses têtes depuis Montluçon. Céline Landreau, Éric Brunet,
RTL Midi.
Gérard Depardieu en garde à vue. L'acteur a été convoqué ce matin par la police judiciaire parisienne pour répondre aux accusations d'agression sexuelle qui le visent. Nouvel épisode donc dans cette saga judiciaire qui poursuit l'acteur depuis maintenant des années.
Et pour en parler avec nous, Sophie Neumeyer, journaliste au service police-justice d'RTL. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Boutsock, notre spécialiste cinéma. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Sophie, d'abord, sait-on de quelles accusations exactement il est question aujourd'hui dans les locaux de la PJ parisienne ?
Oui, alors Gérard Depardieu est interrogé sur des accusations portées dans deux plaintes distinctes. Deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sur deux tournages différents. D'un côté, une décoratrice qui dit avoir été agressée sexuellement en 2021 pendant le tournage du film Les Volets Verts réalisé par Jean Becker. D'après son témoignage recueilli dans Mediapart, eh bien, elle affirme que l'acteur l'a notamment attrapée avec brutalité, qui lui a pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'à ses seins. L'autre plaignante évoque des faits commis en 2014 sur le tournage d'un court-métrage de Jean-Pierre Mocky, Le magicien et les Siamois. Assistante sur le tournage, elle est alors âgée de 24 ans. Dans le courrier de l'Ouest, elle décrit les paluches de l'acteur sur son corps et puis ses mots indécents. Autant d'accusations sur lesquelles Gérard Depardieu est en train de s'expliquer en ce moment dans un commissariat du 14e arrondissement de Paris.
Alors ce sont donc deux accusations qui s'ajoutent à celles qui lui valent déjà une mise en examen.
Oui, en effet, le géant du cinéma français est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020. Une jeune comédienne, Charlotte Arnoux, l'accuse de l'avoir violée à deux reprises en 2018 au domicile parisien de Gérard Depardieu, alors qu'elle dit s'être rendue pour lui demander des conseils. Une information judiciaire est toujours ouverte sur cette affaire, l'enquête est toujours en cours.
Et puis Sophie, il y a tous les autres témoignages.
Oui, l'année dernière, 13 femmes ont témoigné dans Mediapart de gestes ou de propos sexuels déplacés sur 11 tournages entre 2004 et 2022. Comédiennes, assistantes, techniciennes, la plupart préfèrent rester anonymes. La comédienne Hélène Darras, elle avait décidé de porter plainte à la suite de son témoignage, plainte qui a été classée par le parquet de Paris pour prescription. Et puis un signalement a également été adressé au sujet du complément d'enquête consacré à l'artiste sur France 2. On y voit Gérard Depardieu multiplier les remarques sexistes et humiliantes en Corée du Nord. Autant de propos qui pourraient relever de faits de harcèlement sexuel. C'est maintenant entre les mains de la justice, c'est elle d'en décider. Enfin, l'artiste est également visé par une plainte en Espagne, déposée par la journaliste et écrivaine Ruth Baza, qui l'accuse de l'avoir violée en 1995.
Il nous faut quand même rappeler à ce stade, Sophie, que Depardieu reste présumé innocent.
Bien sûr, pour toutes ces affaires, on est toujours au stade de l'enquête. Et dans une lettre ouverte au Figaro en octobre dernier, l'acteur a d'ailleurs clamé son innocence. « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme », écrit-il. « Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère ». Son avocat, Maître Saint-Palais, n'a cessé depuis de contester les faits pour son client. « Il n'a jamais eu de comportement pénalement répréhensible », nous dit-il.
Merci Sophie. En attendant, ce qui est certain, c'est que toutes ces affaires ont eu de lourdes conséquences sur la carrière de l'acteur Stéphane Boutsock.
Hein. Alors on va être clair, hein, cette garde à vue et ses éventuelles conséquences judiciaires ne risquent pas de compromettre la carrière du comédien parce qu'elle est déjà au point mort depuis les volets verts, on en parlait, de Jean Becker en 2022. Son nom ne s'est plus affiché à aucun générique et à ce stade, il n'est attaché à aucun projet connu. Difficile, c'est vrai, pour un producteur d'engager un acteur à la réputation désormais entachée de plaintes pour viol, les chaînes de télévision et les plateformes dont le financement est maintenant essentiel pour un film ne s'engageront certainement plus sur le nom de Pardieu.
Mais vous avez des exemples précis récemment ?
Un temps pressenti pour prêter sa voix au long métrage d'animation de Michel Hazanavicius qui sera en compétition lors du prochain festival de Cannes. Depardieu a été exfiltré du projet et remplacé par Grégory Gadebois. Quelle que soit l'issue des différentes actions entamées, le parcours de Gérard Depardieu sur grand ou petit écran est donc sans doute arrivé à son terme. Lui-même d'ailleurs, il y a quelques mois, affirmait à quelques proches ne plus avoir envie de tourner, lassé, disait-il, des attaques médiatiques et des procédures judiciaires lancées contre lui.
Merci beaucoup à tous les deux. La carrière de Gérard Depardieu, les accusations de ces femmes qu'il vise, c'est peut-être un des sujets qui vous fera réagir. Hein. En tout cas, si ça vous fait réagir, vous connaissez le numéro, le 3210 et l'application RTL pour pouvoir discuter avec vous. Eric, ce sera à partir de 13h.
Oui, à 13h, nous parlerons des travailleurs invisibles aussi. Vous savez, ces gens qui étaient applaudis pendant le Covid, aides-soignantes, aides à domicile, chauffeurs, livreurs, hein, les indispensables. On les appelle ils sont 11 millions les invisibles, les manutentionnaires, les caristes, les éboueurs, les aides ménagères, les techniciens de surface. Et côté horaire et côté salaire, ça n'a pas changé. Un rapport se penche sur ces 11 millions d'invisibles en France. Est-ce que vous en faites partie ? Appelez-nous au 3210 à partir de 13h.
Le standard est déjà ouvert. Avant ça, dans un instant, direction le Rhône. Le Rhône où les fortes pluies du week-end ont provoqué des glissements de terrain et le déraillement d'un TER hier soir. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
Ça vous arrive à vous de prendre de grandes décisions en 10 secondes ?
De grandes décisions, monsieur Junior ?
Moi, la dernière fois, j'étais chez moi et j'ai dit « C'est trop petit ici, on part ».
Vous avez déménagé ?
Non, on est parti chez mon expert agréé Rénoval et hop, 20 mètres carrés de plus.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Mon extension, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL Matin, l'Angle Écho.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai. Prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'Angle Écho à 7h35.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, nous allons dans le département du Rhône, où la ligne TER entre Givors et Lyon est toujours coupée au lendemain du déraillement d'un train.
Oui, un déraillement provoqué par les glissements de terrain liés aux fortes pluies qui se sont abattues hier sur la région. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Et on le disait, la circulation des trains reste interrompue ce midi.
Ah oui, les techniciens, les agents de la SNCF sont toujours sur place pour essayer de dégager ce TER toujours bloqué sur les voies. Ils tentent de sécuriser les voies, les abords. Une opération assez lourde qui pourrait durer plusieurs jours. Aucune garantie quant à une remise en service dans les jours qui viennent.
Mais la ligne de chemin de fer, apparemment, n'est pas la seule à avoir subi les coulées de boue. À quelques kilomètres de là, dans la ville d'Irigny, les coulées de boue ont fait aussi d'importants dégâts.
Ah oui, c'est le point le plus critique, à quelques kilomètres seulement de Grigny, où tout un jardin d'une maison s'est effondré, par exemple en contrebas de la route, en raison de l'abondance des pluies, et constate désabusé Frédéric, c'est le propriétaire qui a dû évacuer sa villa.
C'était vraiment un torrent, quoi. C'était une rivière qui passait par chez nous. Et l'eau a emporté tout le terrain, en fait.
Il y a des dégâts, visiblement, ça s'est effondré.
Alors, la maison s'est pas du tout effondrée. C'est vraiment juste le terrain qui est tout autour de la maison, hein, la terre, quoi. Les voitures, par contre, qui étaient garées à côté de la maison, sont dans le ravin. Donc, on a perdu quand même les deux voitures. Tout le sous-sol qui était enterré est à nul, hein. Donc là, on a un ravin de 4-5 mètres devant la, presque devant la porte d'entrée, quoi.
C'est incroyable, quand même.
Ah oui, c'est fou. On s'imaginait pas... Là, comme ça, et du coup, ça a coulé toute la journée. Et c'est ça qui a dévasté le terrain.
Et juste en dessous de la route, Frédéric, c'est encore plus spectaculaire. La boue a totalement envahi un terrain de plus d'un hectare.
Ah oui, vu d'en dessous, c'est assez effarant. La coulée de boue, de terre, a littéralement envahi le terrain de Pierre, qui élève des brebis, des moutons. La boue a totalement recouvert son terrain de plus d'un hectare.
Ben là où nous sommes, mon terrain, il a 1m40, on doit être à 1m40 à peu près, de différence par rapport, ben, il y a 48 heures.
C'est-à-dire qu'il y a 1m40 de boue, plus, de terre.
De terre, voilà. Cette poutre était à 2 mètres du sol. Elle était à 2 mètres du sol, je passais dessous, 1m80 sans me toucher la tête. Donc cette poutre était à 2 mètres du sol, regardez, il reste quoi, 60 cm, donc il y a 1m40 là. Il y a 1m40 de terrain, de sable, de cailloux, de cochonneries qui viennent du terrain de mon voisin. Et c'est tout descendu chez moi. Et j'ai un peu peur que la maison, je ne sais pas comment elle tient debout, et d'ailleurs on est un peu en danger où on est, on ferait bien de s'en écarter. C'est un torrent de boue. Et voilà, et c'est chez moi. Voilà. Donc on est à 1m40 plus haut qu'il y a 48 heures. Il y a 48 heures, on aurait été à 1m40 plus bas.
Là, c'était de l'herbe.
C'était de l'herbe pour les moutons, voilà. C'était la prairie de mes moutons.
Noyée de boue.
Ben, noyée de terre et de boue, voilà.
Voilà, noyée de terre et de boue, seule bonne nouvelle aujourd'hui. La pluie a cessé après être tombée plus d'une journée, non-stop.
Frédéric Perruche dans le Rhône, donc pour RTL. Merci Frédéric.
RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, mesdames, messieurs. L'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, alors, comment se laver les cheveux en économisant de l'eau? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mesdames, messieurs.
Parce qu'on va parler shampoing sec. Ces poudres, vous le savez, qu'on pulvérise sur nos cheveux pour les laver sans les mouiller. Bonjour Julie Pernet.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, fondatrice du laboratoire dermopilaire Make My Mask. D'abord, petit point technique, comment ça marche le shampoing sec? Comment de la poudre peut laver nos cheveux?
Oui, alors tout à fait. En fait, cette poudre, c'est des poudres qui vont absorber l'excès de sébum, donc l'excès de gras que le cuir chevelu va produire, qui est pas forcément un ennemi, hein. C'est quelque chose normalement qui nourrit le cheveu, le bulbe capillaire, pour avoir des cheveux moins secs et en bonne santé. Mais parfois, on en accumule trop et cette poudre va, en fait, capter le sébum, le gras, et ça va permettre d'avoir un effet moins gras et un effet aussi volumateur.
C'est difficile parce que pour nous, il y a l'idée de savon, de mousse. C'est difficile à accepter, même presque, j'ai envie de dire, culturellement. En théorie, on pourrait d'ailleurs ne se laver les cheveux qu'avec votre shampoing sec qui absorbe l'excès de sébum.
Alors en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que je conseille de toujours se laver les cheveux à côté. Donc on peut pas en fait se passer d'eau parce que ce n'est pas un soin qui va vraiment laver. C'est-à-dire qu'on va pas enlever les impuretés. Hein, on va juste absorber l'excès de sébum. Donc on est vraiment plutôt sur quelque chose qui est esthétique pour un petit coup quand on est rapide le matin, quand on n'a pas le temps de se laver les cheveux, c'est une super solution. Mais c'est quelque chose vraiment à faire entre deux shampoings pour gagner du temps ou avant une soirée. Mais je conseille vraiment de se laver les cheveux parce que ça peut être irritant et on peut avoir après des problèmes capillaires si on n'utilise que ça.
C'est dangereux si on l'utilise trop fréquemment. Quand vous dites des problèmes capillaires, ça brûle le cuir chevelu. Qu'est-ce qui se passe?
Alors dangereux, j'irais peut-être pas jusque-là, quoique. Non, mais il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré que dans les hydrocarbures que contenaient les shampoings secs avec des aérosols, il y avait une grosse contamination. Il y a eu un rappel de l'eau il y a quelques années, justement parce qu'il y avait ils contenaient du benzène, qui est une substance cancérigène. Donc, dans certains cas, ça peut être vraiment dangereux. Mais dans ceux qu'on retrouve en France et actuellement, je conseille plutôt celles qui sont en poudre et pas en aérosol qui sont plus polluants. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout l'accumulation au niveau du cuir chevelu. C'est-à-dire qu'en fait, on va étouffer le bulbe capillaire et le cuir chevelu, ben, il a besoin plutôt d'être purifié pour, voilà, avoir tout l'oxygène, les nutriments qu'on peut lui apporter. Mais quand on accumule comme ça de la poudre au niveau du cuir chevelu, ben, potentiellement, on étouffe le bulbe capillaire, donc ça peut provoquer des démangeaisons, des irritations ou même peut-être des chutes de cheveux.
Est-ce qu'il y a une règle, est-ce qu'il y a une règle pour avoir de beaux cheveux? Il faut les laver à quelle fréquence? J'imagine que ça dépend beaucoup du shampoing, mais est-ce qu'il y a une règle?
Alors oui, alors la règle, c'est d'écouter son cuir chevelu. Tout le monde est différent et tout le monde a une production de sébum différent. On conseille quand même, parce que c'est hygiénique, de conseiller une fois par semaine, parce qu'il y a des personnes qui peuvent tenir 3 semaines sans se laver les cheveux.
Attends,
mais c'est moins hygiénique,
semaines,
c'est normal.
Quand vous dites 3 semaines, c'est au bout de 3 semaines, ils ont toujours pas les cheveux gras.
Exactement.
Mais vous savez, moi je connais une personne, Madame Julie Pernet, je connais une personne qui se lave les cheveux tous les jours à l'eau claire. Que de l'eau claire. Il a une production de sébum, à mon avis, très peu, très basique, et il a des cheveux qui ne sont absolument pas gras.
Bah oui, tout à fait, ça dépend vraiment de la génétique, et ça on peut rien y faire. Donc moi je conseille quand même toujours d'écouter son cuir chevelu, de pas non plus faire des cures de sébum, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont laisser leurs cheveux gras en disant que ça va vraiment espacer leur shampoing. C'est bien à petite dose, mais attention, parce que si on laisse le gras sur son cuir chevelu, on peut développer des champignons. On a tous un champignon au niveau de son cuir chevelu qui participe au microbiome du cuir chevelu et qui... Et bon, hein, c'est vraiment un équilibre. Mais si lui, il adore le gras. Donc, si on laisse trop de gras, ben, il va se surdévelopper. Et là, ça va provoquer des pellicules, des démangeaisons. Donc,
là,
c'est toujours un équilibre comme
pour tout. Vos champignons sur le cuir chevelu, ça fait pas tellement rêver, là. Je vous le dis tout de suite.
Mais on en a tous. C'est comme les bonnes bactéries.
C'est comme les bonnes... Donc, je vous écoute, là. Donc, il faut écouter son cuir chevelu. Céline Landreau, vous n'écoutez jamais votre cuir chevelu. Je suis sûr que c'est un truc que vous faites pas.
Je l'entends pas souvent, je le regarde. Mais l'écouter, c'est vrai que ça m'arrive assez peu. Assez peu. Juste au niveau tarif, c'est plus économique le shampoing sec ou pas du tout? Au-delà des économies d'eau qu'on a évoquées en amont.
Alors, moi je pense que ça ne remplace pas un shampoing, c'est-à-dire que ça va être peut-être plus économique sur le fait de... C'est plus cher qu'un shampoing liquide
classique.
Ou un shampoing qu'on peut classique, voilà. Après, ça permet de moins utiliser d'eau, d'espacer ses shampoings, mais je pense vraiment qu'il faut plutôt l'utiliser pas comme une solution pour être écologique, mais plutôt comme une solution pour être
présentable quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi.
Voilà, présentable, esthétique, mais je conseille pas aussi d'accumuler les doses de shampoing sec au niveau de son cuir chevelu. On peut le faire une fois entre deux shampoings, mais je ne conseille pas de le faire trois
Donc,
fois
résume,
pour espacer ses shampoings d'une semaine.
Je résume, j'ai mon bon petit shampoing que j'aime bien qui ne m'attaque pas le cuir chevelu, classique, et j'ai
Exactement.
Également un petit shampoing sec que j'utilise pour neutraliser mon excès de sébum de temps en temps quand je n'ai pas vraiment le temps de me faire un shampoing. Voilà, c'est ça l'idée.
Exactement, c'est exactement ça l'idée, et franchement ça peut sauver la vie. Enfin, on a vraiment deux types de personnes, hein, sur cette planète. Il y a des personnes qui sont vraiment adeptes du shampoing sec parce que c'est des personnes qui ont plutôt qui produisent plus de sébum, et il y a des personnes qui vont jamais en avoir besoin. Mais en effet, on peut l'utiliser comme ça, on peut avoir les deux, et ce qui est pratique dans les shampoings secs en poudre, hein, notamment celui qu'on a, c'est qu'on peut l'emmener en voyage. C'est de la poudre, c'est pas quelque chose qui est liquide, donc on peut aussi prendre l'avion avec, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi dans son sac à main. Voilà, c'est assez pratique aussi à emmener avec nous.
Vous, Louis Baudin,
plus
vous êtes
que
plutôt,
de se faire un shampoing.
Vous êtes shampoing sec, vous, ou plutôt shampoing classique, vous, Louis?
Moi, j'ai réglé le problème.
Ouais.
Écologique.
Combien de fois par jour on vous fait des vannes à 3 sous comme celle-là? J'ai honte. J'ai honte, Louis.
Pas du tout, faut assumer. Ça va très bien.
Et peut-être que les gens ne savent pas pourquoi vous faites ces blagues-là.
Pourquoi, hein? Parce que Louis a une chevelure très fournie.
Absente.
Merci beaucoup, en tout cas, Julie Pernet. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, fondatrice du laboratoire dermopilaire Make My Mask. Dans un instant, c'est le retour de l'info avec le journal de 12h30. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, l'affaire Joséphine Bernard, le curieux suicide d'une jeune femme de 27 ans, pleine de vie, qui travaillait à Disneyland Paris. Enquête bâclée. Pour certains, la victime était indésirable. Le suicide cache-t-il un meurtre? L'affaire Joséphine Bernard, l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Dortmund, Paris SG, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Bonjour, c'est Christine Haas. L'astrologie vous intéresse, vous intrigue ? Vous avez des questions mais vous hésitez encore à les poser à une astrologue. Analysez votre thème astral pour vous aider à construire un avenir plus conforme à vos aspirations. Profonde, c'est ce que je vous propose au 3210.
3210, 50 centimes la minute, plus prix d'un appel.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Vous devez savoir qu'il est très exactement, mais alors très exactement, 12h30.
Céline Landreau,
Alexandre de Saint-Aignan.
Et à 12h30, votre grande édition de la mi-journée vous est présentée par Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous. Un adolescent et sa mère entendus par la police à Châteauroux. Après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end, on sera sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, Gérard Depardieu en garde à vue depuis ce matin pour agression sexuelle. Une plainte contre Jean-Luc Mélenchon déposée par le gouvernement. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez renonce finalement à démissionner. Et puis deux stars françaises dans le jury du prochain festival de Cannes.
Juste après le journal, l'espoir d'une trêve enfin à Gaza. Le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages. Et puis juste avant 13h, LVT midi, on vous parlera de la BD RTL du mois. BD qui sacre Manu Larcenet pour La Route, un roman graphique fabuleux. Manu Larcenet qui sera notre invité. Donc juste avant 13h, juste avant que vous preniez la parole, Eric Brunet.
Oui, tout à fait. Vous voulez le menu un petit peu à 13h?
Avec plaisir, j'aime bien savoir ce qui m'attend. Ouais.
Alors à 13h, on va parler de ces invisibles. Il y a un rapport qui parle de ces 11 millions d'emplois. Manutentionnaires, chauffeurs-livreurs, les aides à domicile. Vous savez, ceux qu'on a applaudis en quelque sorte pendant le Covid. Les aides-soignantes, les éboueurs, les aides ménagères, les techniciens de surface. Et côté horaire, côté salaire, ça n'a guère changé. Êtes-vous un de ces invisibles? Vous nous appelez au 3210. Nous parlerons également du drame de Châteauroux, de cet auteur des faits d'ailleurs, déjà mis en examen pour vol avec violence. Votre opinion sur ces ados ultra-violents et récidivistes. 3210, le standard est ouvert. Victor et Enzo vous attendent.
La météo, Louis Baudin, à quoi va ressembler notre après-midi?
Eh ben, un peu à la journée d'hier, hein, c'est-à-dire qu'on aura encore des pluies qui vont s'acharner là, de l'Occitanie jusqu'à la vallée du Rhône, en remontant vers la Bourgogne. Dans les autres régions, il y aura une petite accalmie quand même.
Les détails à la fin du journal.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Après Viry-Châtillon, Grande-Synthe, Montpellier, c'est la ville de Châteauroux qui se retrouve depuis ce week-end sous le choc de l'ultra-violence des jeunes.
Un adolescent de 15 ans, Mathis, a été tué de plusieurs coups de couteau samedi en fin d'après-midi dans le quartier Saint-Denis. Bonjour Christian Panvert.
Bonjour à tous.
Un suspect a été rapidement interpellé, il est toujours en garde à vue. C'est lui aussi un jeune de 15 ans, déjà connu des services de police.
Oui, alors pour être plus précis, cet Afghan de 15 ans est connu des policiers qui travaillent ici, qu'il croise souvent. Un d'entre eux me disait tout à l'heure, on savait qu'on aurait un problème. Il aurait même dit un jour, je tuerai quelqu'un. Mais ce qui est factuel, c'est qu'il a été mis en examen pour vol aggravé avec violence dans le cadre d'un guet-apens samedi 20 avril et placé sous contrôle judiciaire. La procureure a tout simplement fait respecter la loi.
Alors précision importante, Christian, la mère de ce jeune Afghan est également en garde à vue. Ça veut dire que les policiers la soupçonnent également ?
Oui, alors les policiers la soupçonnent d'avoir couvert les actes de son fils et peut-être même d'y avoir participé. Cette mère de 37 ans aurait été là au moment des faits. Les images des caméras de surveillance de la ville seront analysées. Elle devrait d'ailleurs être déférée avec son fils cet après-midi devant un juge d'instruction.
Et à Viry-Châtillon, c'était une histoire d'amour qui aurait mal tourné. À Grande-Synthe, la piste d'un guet-apens. Est-ce qu'on a déjà une idée, Christian, de ce qui a pu se passer ici à Châteauroux?
A priori non, on écarte la piste du guet-apens. Selon des sources proches du dossier, là encore, la victime, Mathis, 15 ans, fils de restaurateur à Châteauroux, n'était pas seul samedi. Il était accompagné d'un autre apprenti cuisinier, comme lui. Alors, on ne sait pas ce qu'ils faisaient tous les deux dans ce quartier, mais il semblerait que c'est une bagarre qui est explosée sur fond d'insultes et de moqueries. Et cette bagarre a dégénéré. Alors là encore, il faut rester très très prudent.
Les explications de Christian Panvert depuis Châteauroux pour RTL. Gérard Depardieu, placé en garde à vue lui à Paris dans le cadre de deux enquêtes pour agression sexuelle. Deux femmes l'accusent d'attouchement sur le tournage de deux films en 2014 et en 2021. L'acteur conteste les faits. Gérard Depardieu qui est par ailleurs mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux.
La politique et le gouvernement qui annoncent porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon.
Le leader des Insoumis qui s'était vu refuser par deux fois l'organisation d'une conférence à Lille il y a 10 jours, le préfet et le président de l'université de Lille avaient évoqué des raisons de sécurité. Jean-Luc Mélenchon, lui, avait répondu en citant l'exemple du nazi Adolf Eichmann. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Du service politique de RTL. Des propos qui ont provoqué un tollé. La ministre de l'enseignement supérieur a déclaré vouloir porter plainte pour injure publique.
Oui, le ministère de l'enseignement supérieur va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon qui, selon la ministre Sylvie Retailleau, a traité de nazi le président de l'université de Lille. À quoi se réfère-t-elle? En meeting, le 19 avril, Jean-Luc Mélenchon prononce la phrase suivante. « Moi, je n'ai rien fait », disait Eichmann, « je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays ». Il ajoute « Ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales », référence effectivement au président de l'université de Lille qui avait interdit la conférence prévue dans ses locaux en raison de risques de troubles et en invoquant des tensions et des pressions. Dans son tweet ce matin, Jean-Luc Mélenchon se défend à nouveau d'avoir traité le président d'université de nazi ou même de le penser. « J'ai dénoncé l'exemple de la lâcheté qui conduit au mal », dit-il. Est-ce que cela apparente sa phrase à une injure publique sera... Ce sera à la justice d'en décider.
Merci Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Dans le Rhône, sur la ligne ferroviaire entre Givors et Lyon-Perrache, la circulation des trains ne reprendra pas avant mercredi prochain. Selon la SNCF, elle est interrompue depuis hier soir après l'affaissement d'un talus lié aux fortes pluies. À un TER s'est retrouvé bloqué. Il a partiellement déraillé sans faire de blessés graves. Il est tombé hier l'équivalent d'un mois de pluie sur la région lyonnaise.
Fin du suspense en Espagne. Pedro Sanchez annonce ce matin qu'il reste au pouvoir.
Le chef du gouvernement espagnol avait pourtant annoncé la semaine dernière qu'il envisageait de démissionner pour, je cite, protéger sa famille. Bonjour Aurélie Chameroy.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RTL en Espagne. Pedro Sanchez garde donc son poste de Premier ministre alors qu'un tribunal de Madrid a ouvert une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et pour corruption.
Oui, sa femme est soupçonnée d'avoir favorisé des entreprises dans des attributions de fonds publics. L'affaire a été révélée par la presse de droite et portée au tribunal par un collectif d'extrême droite. Preuve d'un harcèlement politique, selon Pedro Sanchez. Il s'était donc muré dans le silence depuis mercredi pour décider si cela valait la peine de continuer. Les militants socialistes, sous le choc, eux se sont rassemblés par milliers ce week-end à Madrid pour soutenir leur leader. Une mobilisation qui a été déterminante, selon le chef du gouvernement.
Merci. Grâce à cette mobilisation sociale qui a eu une influence décisive sur ma réflexion, je veux partager ce que j'ai finalement décidé. J'ai décidé de continuer, avec plus de force s'il le faut, à la tête du gouvernement d'Espagne.
Le leader socialiste a toutefois indiqué, entre les lignes, qu'il fallait agir pour faire cesser les campagnes de harcèlement politique et que l'Espagne devait devenir un exemple en la matière. Du côté de l'opposition, on dénonce un coup politique pour remobiliser l'électorat à 2 semaines des décisives élections en Catalogne.
Les explications d'Aurélie Chameroy en Espagne pour RTL.
Le Hamas doit donner aujourd'hui sa réponse à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël, proposition associée à une libération d'otages lors d'une réunion tripartite au Caire. On y revient en détail après le journal.
RTL Midi.
Rappelez-vous, ils et elles étaient applaudis chaque soir par les Français au début de la crise sanitaire.
Oui, on applaudissait les infirmières, les aides-soignantes, les caissières de supermarchés, des professions trop souvent dévalorisées et pourtant indispensables, ô combien. Cette prise de conscience n'a semble-t-il pas duré, selon une enquête de la Fondation Travailler Autrement. Véronique est factrice et femme de ménage. Elle est désormais à la retraite après avoir été comme 11 millions de travailleurs en première ligne durant le Covid.
Nous, les postiers, on était c'est super, vous travaillez. Quand le Covid était fini, on est extrêmement mal aimé, quoi. Quand on fait une erreur, on nous tape dessus. Faut pas attendre de reconnaissance professionnelle ni rien. Il y a quelque chose qui s'est cassé avec le Covid, en fait. Le travail de facteur, c'est extrêmement physique. À force de travailler aux intempéries, j'ai l'arthrose qui s'est développée énormément. J'ai une prothèse au genou depuis 7 ans, des douleurs aux épaules. Je me dis toujours qu'il y a plus malheureux que nous, donc en fait, faut faire avec. C'est un constat un peu triste, mais c'est la vie. Il faut pas toujours se plaindre, faut pas toujours pleurer, faut pas toujours tendre la main pour avoir des aides.
Voilà des propos recueillis par Anna Jaujard pour RTL. Bonjour Martial You.
Bonjour.
On l'entend dans ce témoignage. En fait, depuis la crise sanitaire, la situation a même empiré pour ces premiers de corvée.
Et oui, parce que ces 11 millions de salariés ont été les principales victimes, en fait, des crises de ces dernières années. Crise du pouvoir d'achat, évidemment. Les invisibles gagnent entre 900 et 2000 euros par mois. L'inflation les a frappés de plein fouet parce qu'ils consomment plus de produits importés que les autres. Ils gagnent 32% de moins de salaire que la moyenne française. Crise de l'énergie. Ils dépensent plus d'argent en transport que les autres Français. Voiture obligatoire, plus de la moitié ne fait jamais le plein à la pompe pour étaler les coûts de carburant. Crise du logement aussi, avec une hausse des prix et un durcissement des conditions d'accès au crédit. Ils habitent loin de leur travail et souvent dans des passoires thermiques qui coûtent plus cher en chauffage. Alors on l'entendait, ce sont des métiers physiques. La plupart sont debout toute la journée. Quasiment 100% des invisibles occupent des postes qui ne sont pas télétravaillables. Des métiers pénibles, les deux tiers sont en horaire décalé. 1 sur 2 travaillent le samedi. 75% d'entre eux, et surtout d'entre elles, sont épuisés et ne s'imaginent pas tenir jusqu'à la retraite.
Merci Martial You pour RTL et d'ailleurs ces travailleurs invisibles. C'est le sujet aujourd'hui de notre podcast Tout savoir sur, à retrouver sur RTL.fr.
Et c'est aussi le sujet des auditeurs.
Bien sûr.
On va ouvrir là-dessus à 13h tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, le standard est ouvert. Estimez-vous faire partie de ces 11 millions de travailleurs invisibles? On avait donné la liste tout à l'heure. Caissière, postier, chauffeur, livreur, aide à domicile. Appelez-nous au 3210.
C'est RTL qui vous l'a révélé ce matin. Les voitures pourraient bientôt rouler avec un nouveau carburant écolo.
Oui, du super-éthanol E85. Rien qu'en France, il pourrait remplir le réservoir de 10 millions de voitures essence. Nicolas Courtouglou, responsable carburant de Bioéthanol France.
Tout simplement, en fait, on enlève la partie d'essence classique fossile dans le E85 et on le remplace par 15% de carburant renouvelable.
Ça permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à l'essence et de 90 à 98% les émissions d'oxyde d'azote et de particules en empreinte globale, c'est-à-dire y compris la production du carburant et sa consommation.
Voilà un nouveau carburant prometteur, des propos recueillis par Christophe Bourroux pour RTL. Le festival de Cannes, ça va commencer dans 2 semaines et info RTL, il y aura 2 stars françaises dans le jury, Omar Sy et Eva Green, jury qui sera présidé par la réalisatrice de Barbie, l'américaine Greta Gerwig. Rendez-vous sur la croisette pour la montée des marches à partir du 14 mai prochain.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. La météo, Louis Baudin, on va pas vous demander s'il y aura du soleil sur la croisette dans 15 jours. Parlez-nous d'abord de ce qui nous attend cet après-midi.
J'espère que ça changera. Mais pour cet après-midi, c'est vrai qu'on va encore avoir beaucoup de pluie. Pas sur la croisette, normalement on devrait être un petit peu à l'écart. Mais en revanche sur le Languedoc-Roussillon, sur une grande partie de l'Occitanie, le Massif central, partie de la vallée du Rhône également, le Lyonnais, encore des averses possibles tout au long de l'après-midi. Pluie plus soutenue sur les Pyrénées-Orientales, mais là c'est plutôt une bonne nouvelle, des pluies qui progresseront également vers la Bourgogne. De part et d'autre, donc, de cet axe pluvieux, ça restera plus sec entre les Alpes et la Corse. Et puis dans le nord et le nord-ouest, là aussi, on peut même espérer de belles éclaircies, de la vallée de la Loire à l'Île-de-France, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais ou encore sur le nord de l'Aquitaine. Le tout avec des températures qui remontent un petit peu, allez, presque de saison, 13 à 17 degrés sous les nuages et la pluie, mais 17 à 22 degrés dans les autres régions. Et là, c'est plutôt de saison.
Merci beaucoup, Louis.
L'espoir d'une trêve à Gaza. L'espoir d'une trêve à Gaza, nous en parlons dans un instant. Le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages près de 7 mois après l'attaque du 7 octobre et la riposte de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.
À tout de suite.
Céline Landreau, Éric Brunet.
RTL Midi jusqu'à 13h.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Cyril Roget, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur communication innovation chez Michelin. L'innovation et Michelin, c'est une histoire d'amour.
Absolument, et ça fait même 130 ans que l'innovation est au cœur de l'histoire de Michelin. D'ailleurs, nous faisons partie des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
Et justement, sur quelles innovations travaille Michelin ?
Eh bien, au-delà de notre ambition de créer des pneus tout durables d'ici 2050, nous exploitons aussi notre savoir-faire en matériaux composites pour ouvrir de nouveaux horizons.
Lesquels, par exemple ?
Alors, Michelin travaille notamment sur le projet Wizamo, un système automatisé d'ailes gonflables pour cargo qui vise à réduire les gaz à effet de serre du transport maritime.
Merci Cyril Roger. RTL.
Au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours à travers la vie de quatre héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige.
L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
RTL Midi avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Émilie Beaujard est avec nous, donc peut-être un espoir de trêve sur fond de à Gaza, hein, sur fond de libération des otages. Est-ce que c'est possible ? On attend la réponse, la décision du Hamas.
Oui, c'est possible hein, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la pression internationale s'accroît, Benjamin Netanyahou est de plus en plus isolé, la situation humanitaire est plus que critique dans la bande de Gaza et la majorité des capitales occidentales et arabes sont d'accord pour dire qu'il faut mettre fin à ce conflit qui arrive aujourd'hui dans une impasse militaire et politique et qui a fait plus de 34 000 morts côté gazaoui selon les chiffres du Hamas. L'autre raison, c'est que le Hamas et Israël ont tous les deux envoyé des émissaires pour négocier au Caire, donc le canal de discussion est toujours ouvert. Aujourd'hui, le Hamas doit d'ailleurs donner sa réponse sur une contre-proposition présentée par Israël il y a quelques jours.
Alors la condition, ça serait quand même là la libération d'un certain nombre d'otages.
Oui, selon les informations des médias qataris, l'accord porterait sur la libération de 33 otages, des femmes, des malades et des hommes âgés. En échange, des prisonniers palestiniens seront libérés. Les jours de trêve seraient égaux au nombre d'otages libérés, selon un site américain. 33 jours de trêve pour 33 otages libérés. Donc l'échange porterait aussi sur un possible retour d'un nombre limité de Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza et le retrait de quelques troupes israéliennes de certaines positions. Si ce deal aboutit, alors il y aura d'autres négociations sur la fin des hostilités.
Émilie, vous parlez de 33 otages. On sait combien d'otages sont encore retenus aujourd'hui par le Hamas ?
Alors selon un décompte de l'AFP, l'agence France Presse, ils sont 129 aux mains du Hamas, dont 3 franco-israéliens. Environ une trentaine seraient morts en détention, selon les autorités israéliennes.
Et pour faire pression sur le Hamas, Israël agite toujours la menace de cette opération militaire sur le sud de la bande de Gaza, Rafah.
Oui, Benjamin Netanyahou en fait même un chantage. Si cet accord n'est pas conclu rapidement, alors les troupes israéliennes entreront dans Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Rafah, c'est la dernière ville qui n'a pas été envahie par Israël, mais c'est surtout là où se sont réfugiés tous les Palestiniens qui ont fui les combats. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes vivent dans cette ville qui comptait avant la guerre 250 000 habitants. Un endroit où sont aussi installés dorénavant les organisations humanitaires, les hôpitaux de campagne. C'est devenu en fait le cœur névralgique de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne assure que 4 bataillons du Hamas sont encore présents à Rafah et qu'ils doivent donc être attaqués. Elle pense aussi que Yahya al-Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, serait caché dans cette ville du sud.
Émilie, le Hamas doit donc donner sa réponse aujourd'hui lors d'une réunion au Caire avec le Qatar et l'Égypte. Quel rôle jouent aujourd'hui ces intermédiaires ?
Alors, ces intermédiaires, déjà, ils ont tout intérêt à ce que cet accord soit conclu. Ils jouent leur crédibilité, en fait, hein, en tant que médiateur dans ce conflit. Le Qatar et l'Égypte sont aujourd'hui les deux seuls pays à réussir à parler au Hamas et à Israël. C'est eux qui font la navette entre les deux depuis le 7 octobre et même dans les précédents conflits. Le Qatar cherche à maintenir son influence dans la région et à rester incontournable. L'Égypte, de son côté, est plus pragmatique. Le Caire veut à tout prix éviter un afflux de réfugiés sur son sol, notamment dans le Sinaï, la région qui borde le sud de la bande de Gaza. En cas d'offensive à Rafah, si le million de réfugiés se dirige vers la clôture qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte, il est probable que sous la pression, les portes s'ouvrent et des dizaines de milliers de réfugiés afflueraient alors dans le Sinaï. Un scénario noir pour l'Égypte qui ne veut pas gérer de nouveaux réfugiés palestiniens, notamment quand on voit que les pays qui les ont accueillis en 1948, comme la Syrie ou encore la Jordanie, les accueillent toujours aujourd'hui. Le risque donc, c'est que tous ces Palestiniens se retrouvent bloqués en Égypte pour des décennies, sans possibilité de retour en terre palestinienne.
Et puis sur cette question du cessez-le-feu, il y a quand même deux grandes inconnues que la communauté internationale ne maîtrise pas, Émilie. Ce sont les enjeux internes, peut-être même parfois les rivalités au sein d'une part du Hamas et au sein d'une autre part du gouvernement israélien.
Oui, tout à fait. Chacun joue sa partition. Le Hamas veut obtenir la fin des hostilités et le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza, ce que refuse Israël. Le groupe armé palestinien maintient donc la guerre psychologique. En quelques jours, deux vidéos montrant trois otages, trois hommes ont été diffusées. À chaque fois, les otages accusent Netanyahou de les avoir abandonnés. De son côté, Tel Aviv doit composer avec une opinion publique de plus en plus critique et une coalition gouvernementale pro-guerre. Un des ministres de l'extrême droite a d'ailleurs prévenu qu'il ferait voler en éclats la coalition gouvernementale si l'armée israélienne n'entre pas à Rafah. Benjamin Netanyahou n'a donc pas les coudées franches, surtout s'il veut rester au pouvoir.
Merci beaucoup, Émilie Beaujard, service international d'RTL. Dans un instant, votre rendez-vous culture LVT Midi avec la BD RTL du mois. Un roman graphique que vous n'oublierez pas, La Route, signé Manu Larsenet. Manu Larsenet qui sera notre invité. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le Parc National de Forêt, le Parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed.
Je peux vous dire qu'en réalité, l'école ne devrait pas commencer à 8h pour les collégiens, mais à 9h. Parce que dans notre cerveau, on a une horloge qu'on appelle l'horloge biologique. Cette horloge, elle vous dit à quel moment vous êtes fatigué pour aller vous coucher et à quel moment vous devez vous lever. Chez un adolescent, cette horloge biologique, elle est naturellement décalée. Ils ont donc une tendance naturelle à se coucher plus tard, contre laquelle on ne peut absolument lutter.
Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed, c'est dans Ça va beaucoup mieux, tous les jours à 8h35.
RTL.
Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table, ça vous le savez, tous les jours dans RTL Midi, les amis. Et aujourd'hui, c'est la BD, la bande dessinée RTL du mois d'avril.
Et elle sacre un auteur qu'on connaît bien à RTL, puisqu'on le suit depuis ses débuts, il y a 25 ans, avec Le Retour à la Terre, Le Combat Ordinaire. Bonjour Manu Larsenet.
Bonjour madame.
Vous signez La Route aux éditions d'Argo. C'est une adaptation d'un roman de l'écrivain américain Cormac McCarthy qui lui a valu d'ailleurs le prix Pulitzer en 2006. Et pour en parler avec nous, Arnaud Mulpa. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Notre spécialiste BD à RTL. En un mot, un chef-d'œuvre.
Ouais, sans doute l'un des meilleurs albums de ce début d'année. Une histoire de fin du monde. Une catastrophe s'est produite, on ne sait pas trop laquelle. L'air est glacial, irrespirable. Il y a une telle poussière en suspension qu'on ne voit pas à 50 mètres. Parmi les rares survivants, un père et son jeune fils, ils poussent leur caddie et le peu d'affaires qu'il leur reste. Direction le sud, dans l'espoir de trouver un peu de chaleur et des jours plus faciles à supporter. En attendant, ils tentent de survivre, fouillent les décombres pour un peu de nourriture et ils se planquent pour éviter les mauvaises rencontres. Pour le jeune garçon, le monde se divise entre les gentils et les méchants. Pour le père, l'existence se résume en un simple objectif, protéger son fils. Je vous laisse découvrir la suite, c'est un album qui marque, avec très peu de dialogue, qui permet donc de s'immerger dans les dessins. Et quel travail vraiment vous avez fait, Manu Larsenet, à la lecture de ce roman de McCarthy. Est-ce que vous aviez tout de suite perçu la dimension graphique ?
C'est là-dessus que je pars en général. Quand je lis un roman, quand je cherche à adapter un roman, j'en lis quelques-uns. La première chose qui m'agrippe, c'est l'ambiance. Si l'ambiance est pluvieuse, avec de la cendre comme là, tout est cassé, c'est de la rouille, tout est tombé. Pour un dessinateur, c'était une sorte de chef-d'œuvre, entre guillemets. Chef-d'œuvre, ça veut pas dire que c'est bien. Hein. Je veux dire, je joue le chef-d'œuvre au sens compagnon. Du devoir, j'ai mobilisé tout ce que je savais faire, de la construction jusqu'à la couleur, pour rendre ce paysage gris.
Et c'est très travaillé, les dessins, il y a une multitude de détails. C'est un travail de combien de temps pour arriver à rendre cette atmosphère-là ?
Ça a été quelques mois de recherche, et ça a été un an et demi plein de dessins et de découpages et de couleurs. J'ai pas pris de week-end, j'ai pas pris de vacances, j'ai pas été chez des amis, j'ai pas d'amis donc je peux pas y aller.
Ça facilite les choses.
Je n'ai fait que ça parce que j'ai eu très peur de perdre le fil. Comme le roman est écrit à la première personne, je peux pas prendre ce qu'a écrit McCarthy et le mettre dans un text-off. L'homme pense que non, c'est là il le dit. Donc il fallait que je dessine tout ça, le passer à la moulinette du trait pour essayer de rendre ce que lui avait mis en mots.
Alors c'est une ambiance très sombre entre la faim, le froid, la violence dans laquelle ce père et ce fils évoluent. Mais grâce à ce petit garçon qui pose parfois des questions très naïves, c'est jamais déprimant, il y a toujours une petite lueur d'espoir.
Ça c'est parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste. Il y a deux manières de lire ce livre, soit comme moi, c'est-à-dire qu'il y a zéro espoir. Tout est gris, cassé, fini. Et puis d'autres personnes voient ce petit garçon comme une lueur d'espoir. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai vu un père et un fils. Et ce père, au début, je l'aimais pas du tout. Je me disais, mais pourquoi il le prend pas dans ses bras, son gamin? Je me projetais, je me disais, mais pourquoi il le rassure pas? Et en fait, il y a une scène à un moment très, très touchante qui, moi, m'a explosé la tête. C'est quand il apprend à son fils à se suicider. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il essaye de former son fils à ce qu'est ce monde et sans doute à ce qu'il sera quand lui va mourir. Il lui apprend simplement chaque jour à essayer de pas se faire tuer. Pour moi, c'est zéro espoir.
Pas d'espoir, vous nous dites. Et c'est vrai que moi, j'ai fermé votre livre. J'étais pas très bien, quoi. Il y a quand même une oppression. On y repense dans les heures, les jours qui suivent. Comment vous, vous avez réussi à sortir de ça? Vous voyez de la couleur, de la lumière, ça y est, ça va mieux quand même?
Alors, je suis un peu particulier. C'est-à-dire, j'avais tellement peur de m'effondrer après la fin du livre. Le lendemain même, j'ai embrayé sur un album de gros nez, de trucs rigolos, pour essayer de me laver un peu de tout ça. Et petit à petit, cette ambiance commence à me quitter un petit peu.
Les relations de transmission, les relations père-fils, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de vos albums. Comment vous l'expliquez ?
Ah bah, mon père, ce héros. Mon père, c'était mon héros. C'était... Mon père et moi avions une relation compliquée, mon père me parlait pas beaucoup, et il m'expliquait, parce que j'étais un enfant vraiment déséquilibré et problématique, il me disait toujours « tu vas en chier, ça va être dur, la vie c'est pas fait pour les gens comme toi, la vie c'est fait pour ceux qui ont de la force, qui y vont et tout ça ». Et il m'a dit tout ça toute ma jeunesse, et je retrouvais dans l'enseignement de mon père, l'enseignement du père dans le livre. Ah, évidemment, c'est pas.
Oui, on espère que vous avez eu quand même une enfance un peu moins glauque que celle du petit garçon.
Oui, j'ai pas eu peur d'être mangé, par exemple. C'est une des rares choses. Mais du coup, sans me projeter pour autant sur l'enfance, c'était mon père que je mettais en avant dans ce livre-là.
Vous avez pris une décision il y a quelques années, c'est de passer à la palette graphique, c'est-à-dire de ne plus dessiner sur du crayon, enfin avec un crayon, pardon, sur du papier, mais donc avec un stylet sur une tablette. Hein, je pense que c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui a guidé ce choix et qu'est-ce que ça vous permet ?
Il y a une chose extraordinaire dans l'ordinateur, c'est que vous faites un trait, il est foiré, vous faites pomme Z, vous recommencez, pomme Z, vous recommencez, jusqu'à ce que le trait soit bon. Alors c'est chronophage au possible, mais en même temps, c'est exactement ce que j'ai envie. Je fais le trait dont j'avais envie. C'est celui qu'il faut. Celui-là et pas un autre. Et ça, sur le papier, on peut pas. Parce que quand on gomme, par exemple, du papier, on lui fait perdre une partie de sa surface. Et quand on revient dessus, c'est plus le même trait. Donc il faut changer la case. Puis des fois, il faut changer la page. Il faut tout refaire. À l'ordinateur, c'est beaucoup plus long. Mais une fois que c'est fini, je retouche plus jamais de case. Je les trouve exactement comme je les avais pensé. Parce que je suis pas un virtuose, ça aussi, il faut le dire. Les virtuoses, ils peuvent vous faire sur... J'avais vu Cabu dessiner sur un post-it, des trucs incroyables. Mais moi, je sais pas faire ça. C'est pas le dessin que je sais faire. Moi, c'est ça, comme disait un critique qui m'aimait pas beaucoup, disait ça pue la sueur. Ben, finalement, oui. Et puis, finalement, j'en suis un peu fier aussi.
Merci beaucoup, Manu Larsenet. On rappelle Cet album, donc, que vous n'oublierez pas vraiment, ça s'appelle La Route et c'est aux éditions d'Argo. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, mesdames, messieurs, faites-vous partie des 11 millions de travailleurs invisibles, les invisibles en France. Vous êtes postier, postière, manutentionnaire, cariste, chauffeur-livreur, aide à domicile. On vous a dit, on vous a applaudi pendant le Covid, on vous a dit bravo, vous êtes exemplaires. Et puis les années passent et les salaires n'évoluent pas, les horaires n'évoluent pas. Deux tiers des invisibles sont en horaires décalés, mesdames, messieurs. Alors oui, je vous parle et vous m'appelez au 3210, cette émission est pour vous, aide-soignant, infirmière, éboueur, aide ménagère, technicien de surface, caissière, bref, vous, les invisibles. À tout de suite, les amis.
RTL Midi.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. RTL. Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui. Ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Attention, moi je ne dis pas qu'il faut choisir absolument Rénoval.
Bien sûr, monsieur Génial.
Non, je dis juste qu'il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent faire confiance à des gens compétents, à l'écoute, qui feront un travail irréprochable avec des matériaux de qualité. C'est tout ce que je dis.
En ce moment,